Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Rare à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous continuons d'explorer l'acromégalie et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Régis. Professeur Régis, bonjour.
Bonjour.
Professeur Régis, vous êtes neurochirurgien, professeur des universités à la faculté de médecine de Marseille et praticien hospitalier, chef du service de neurochirurgie fonctionnelle et de radiochirurgie à l'hôpital de la Timone à Marseille. Alors, professeur Régis, ma première question, c'est évidemment aux spécialistes en radiochirurgie qu'elle s'adresse, puisque votre service est à la pointe de cette technique. Quels sont les patients atteints d'acromégalie qui peuvent bénéficier de la radiochirurgie Gamma Knife ?
Alors, les patients qui vont bénéficier de la radiochirurgie Gamma Knife sont par définition des gens qui sont en échec des traitements médicamenteux et de la chirurgie, parce que la chirurgie par voie rhinoceptale, c'est-à-dire par le nez, en des mains expertes, est une chirurgie qui est extrêmement satisfaisante avec de très bons résultats immédiats, un taux d'efficacité élevé et très peu de risques. Donc, on ne va réserver la radiochirurgie qu'aux cas qui ont résister, c'est-à-dire qui continue à être hyper sécrétant malgré la chirurgie.
Est-ce que vous pouvez nous présenter donc brièvement le principe de cette radiochirurgie Gamma Knife et son mécanisme d'action ?
Le principe de la radiochirurgie, c'est une technique neurochirurgicale qui est basée sur l'utilisation de faisceaux convergents de rayonnement ionisant étroit. En l'occurrence, pour la plupart des centres qui traitent des pathologies hypophysaires, il s'agit de Gamma Knife. Donc, quand on a un grand nombre de faisceaux qui convergent en un point de façon très précisément focalisée, on arrive à avoir une énergie extrêmement importante au point de convergence des faisceaux, mais sur chacun des faisceaux, une énergie très faible. Et ainsi, on peut aller atteindre au milieu de la tête, dans le cerveau, un point que l'on vise électivement, tout en ne lésant absolument pas le cerveau tout autour, sans abîmer le cerveau pour approcher la cible. Donc ça, c'est le principe, et c'est un principe qui marche bien, puisque la radiochirurgie, ça existe depuis les années 1950, et qu'aujourd'hui, il y a des centaines de milliers de patients qui ont bénéficié et qui bénéficient de la radiochirurgie dans de nombreuses indications. Alors, en ce qui concerne le mécanisme d'action, il est très particulier, puisque contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, la radiochirurgie ne va pas avoir une action physique, il n'y a pas de destruction physique immédiate, il n'y a pas de changement de la température, on ne brûle pas, on ne vaporise pas. On va, par l'interaction des rayonnements ionisants avec la matière, avec les cellules tumorales, on va créer des lésions de l'ADN des cellules tumorales, et quand ces cellules tumorales vont vouloir entrer en duplication, on va observer une mort cellulaire qu'on appelle l'apoptose. Ça, c'est ce qu'on sait depuis longtemps de la radiochirurgie. On sait maintenant qu'il y a aussi des effets au niveau de la microvasculature, c'est-à-dire les tout petits vaisseaux et qui participent à l'effet de la radiochirurgie, et puis il y a aussi un effet qui est un effet à travers l'immunité. Alors, en ce qui concerne les adénomes hypophysaires, de façon assez intéressante, on observe que lorsqu'on traite un adénome hypophysaire, on peut avoir deux buts. On peut avoir soit le but juste de contrôler la progression tumorale, et ça on l'obtient assez facilement avec des doses très faibles de rayonnement ionisant, soit on a besoin d'arrêter une sécrétion, ce qui est le cas dans l'acromégalie. Et ce qui est intéressant, c'est de considérer que pour arrêter la sécrétion ou la croissance tumorale, on n'a pas besoin de tuer les cellules. C'est-à-dire que pendant très longtemps, en fait, si vous faites des imageries en résonance magnétique, vous allez voir une lésion résiduelle. Cette lésion va devenir, au bout de plusieurs années, parce qu'il y a un délai important d'action de la radiochirurgie, inactive. Elle va s'arrêter de sécréter en excès cette hormone, l'hormone de croissance, mais ça ne se fait pas au prix d'une destruction cellulaire.
Très bien, c'est passionnant. Alors, professeur Régis, justement, pour ces patients qui souffrent d'acromégalie et qui peuvent y avoir accès, quels vont être les bénéfices qu'ils vont en retirer ?
Alors, le bénéfice, en fait, on peut le décrire de façon négative, c'est-à-dire que les gens qui ont une acromégalie, vous le savez, ils vont avoir un certain nombre de complications de l'acromégalie. Il y a des complications ostéo-articulaires, des complications cardiovasculaires, etc. Diabète. Donc, toutes ces complications, si on laisse continuer la maladie, elles vont altérer la qualité de vie, voire la durée de vie du patient. Bien sûr, il y a des traitements médicamenteux, quelquefois partiellement efficaces, mais ces traitements médicamenteux eux-mêmes peuvent avoir une certaine toxicité. Et quand on va par la radiochirurgie progressivement faire s'arrêter la sécrétion, on va permettre aux gens d'aller mieux pour chacune des complications que j'ai citées et que peut entraîner la maladie, et aussi d'arrêter leurs médicaments, ce qui n'est pas le dernier des bénéfices quand on parle avec eux.
Très bien. Et après cette chirurgie, cette radiochirurgie par Gamma Knife, après l'acte chirurgical en tant que tel, quel suivi préconisez-vous pour les patients ?
Alors, ce qui est très particulier avec la radiochirurgie, c'est que les gens qui ont bénéficié de la radiochirurgie, si on fait une IRM le lendemain, on ne voit aucune modification. Et si on fait un dosage sanguin, on ne voit aucune modification, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, l'effet est différé de plusieurs mois. Le traitement radiochirurgical, parmi ses spécificités, a la particularité d'être très différé dans le temps, dans son efficacité. On ne voit baisser l'hypersécrétion que de façon retardée. Ces patients sont, au moment où on les traite, sous médication spécifique antisécrétoire. Ces antisécrétoires vont être continués pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, selon le délai d'action de la radiochirurgie. Et c'est quand l'endocrinologue fera des essais d'arrêt des traitements et qu'il dosera les hormones, la GH, GF1 en particulier, s'il voit que le patient est guéri, il va pouvoir arrêter les antisécrétoires. Si le patient n'est pas guéri à la faveur de cette fenêtre thérapeutique, il sera obligé de remettre les antisécrétoires en attendant l'effet. En sachant que si jamais l'effet de la radiochirurgie n'arrive pas, on peut toujours éventuellement discuter le fait de refaire une radiochirurgie complémentaire.
Alors, c'est à Marseille qu'est située la coordination des centres de référence des maladies rares de l'hypophyse. Alors, professeur Régis, pourquoi recommander aux praticiens d'orienter les patients qui souffrent d'acromégalie vers un centre expert ?
Je crois que c'est absolument capital parce que c'est une pathologie, comme vous l'avez dit, une pathologie rare. Je pense que c'est une pathologie assez compliquée. C'est une pathologie, quand on parle de radiochirurgie, en tout cas, on parle de patients qui ont été résistants aux premières lignes thérapeutiques de traitement habituels que sont les antisécrétoires et les traitements chirurgicaux. Et donc, ce sont des patients compliqués. Chaque patient est unique. Et ici, quand on discute les dossiers, c'est de façon multidisciplinaire. Il y a toujours les endocrinologues spécialistes de l'hypophyse, les neurochirurgiens spécialisés dans les voies rhinoceptales et les neurochirurgiens spécialisés dans la radiochirurgie. Et tous ces dossiers sont discutés et doivent être discutés avec ces trois niveaux d'experts. Et la conjonction de la présence de ces trois types d'experts est une chose relativement rare qui n'est regroupée que dans des centres assez peu nombreux. Donc je pense que pour les patients, il est extrêmement important, lorsqu'ils sont en situation d'acromégalie réfractaire, d'être bilantés et d'avoir un avis multidisciplinaire dans un centre spécialisé.
Eh bien, merci infiniment, professeur Régis, de nous avoir fait mieux connaître la prise en charge radiochirurgicale des patients atteints d'acromégalie. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.raralecoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition et où vous pourrez trouver les épisodes précédents consacrés à l'acromégalie. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur l'acromégalie. À très vite.